président iranien rejette une fois de plus les propositions d'Emmanuel Macron. Hassan Rouhani s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue français. Il lui a redit que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien n'était pas négociable. C'est pourtant l'objectif de Paris et de Washington, renégocier et limiter le rôle déstabilisateur de Téhéran au Moyen-Orient. Accord et désaccord analysés dans un instant.
Et puis à la une également, la Corée du Nord et sa voisine du Sud remettent littéralement les pendules à l'heure. Pyongyang s'aligne sur le fuseau horaire de Séoul. Nouveau signe de détente sur la péninsule.
Le Conseil d'État demande à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, d'amender plusieurs points sur les transformations de l'assurance chômage. Le principe de l'offre raisonnable d'emploi inscrit dans le texte gouvernemental pose problème. Les répercussions des grèves commencent à se faire sentir sur le tourisme, mais de manière inégale selon les régions. Où sont les disparités? Ce sera l'objet du biais économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis après le journal, la question du jour, délit de solidarité. Que risque un citoyen qui vient en aide aux migrants? C'est la question qu'on posera tout à l'heure à Stéphane Maugendre.
L'armée syrienne confirme avoir été la cible de tirs de roquettes hier sur plusieurs bases militaires dans les provinces d'Alep et Hama. Aucun bilan précis, mais le régime dénonce une nouvelle agression de ses ennemis. Et selon plusieurs sources, l'une proche des services de renseignement, l'autre de l'opposition syrienne, les sites touchés seraient des centres de commandement de milices chiites soutenues par l'Iran. Impossible pour l'instant de vérifier ces informations, mais un précédent raid mené par Israël au début du mois avait déjà visé une base aérienne syrienne et tué 7 militaires iraniens. L'influence de Téhéran dans la région, c'est l'un des points que les États-Unis et la France veulent inclure dans un nouvel accord sur le nucléaire iranien, au cœur de discussions et de désaccords ce week-end entre les différents signataires du texte de 2015. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Catherine.
À 2 semaines de la décision de Donald Trump de déchirer ou non l'accord de 2015, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exposé sa ligne dure contre l'Iran lors d'une tournée au Proche-Orient ce week-end.
Oui, le tout nouveau secrétaire d'État américain a entamé sa tournée moyen-orientale en visite les deux principaux alliés de Washington dans la région, l'Arabie Saoudite et Israël, deux alliés qui sont aussi deux ennemis déclarés de Téhéran et qui, exactement sur la même ligne que l'administration Trump, n'ont jamais fait mystère de leur rejet de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par l'administration précédente. Mike Pompeo n'a donc eu aucune difficulté à vendre une nouvelle ligne dure américaine à Tel Aviv ou à Riyad. Le nouveau patron de la diplomatie américaine a ainsi multiplié les sorties publiques assez peu amènes pour Téhéran. L'ambition de l'Iran reste de dominer le Moyen-Orient, a-t-il par exemple affirmé devant la presse à Tel Aviv, après un entretien avec le Premier ministre israélien. Peu avant à Riyad, il assurait que l'Iran est, je cite toujours, le plus grand sponsor du terrorisme dans le monde. Dans la foulée, Mike Pompeo a promis à ses interlocuteurs israéliens ou saoudiens que Washington se préparait effectivement à dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien le 12 mai prochain, si cet accord n'était pas modifié. Alors modifier cet accord et inclure la problématique de l'influence iranienne dans la région ou la portée des missiles balistiques de Téhéran, c'est semble-t-il la tâche que Washington a confiée aux Européens et particulièrement à la France.
Et du côté de la France, justement, Emmanuel Macron est confronté à la fermeté du président iranien. L'accord de 2015 n'est en aucune manière négociable, a expliqué hier Hassan Rouhani à son homologue français.
Oui, les deux chefs d'État se sont en effet entretenus, sont tombés d'accord pour préserver l'accord de 2015. Pour Hassan Rouhani, c'est effectivement non négociable. Le président français s'est également entretenu ce week-end avec les autres leaders européens, partie prenante de l'accord sur le nucléaire, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Theresa May, tous trois se sont également accordés pour préserver l'accord de 2015. Mais Emmanuel Macron entend aller au-delà, œuvrer pour obtenir des avancées sur les autres sujets. Comprenez, amener les Iraniens à entamer des pourparlers quant à leurs capacités balistiques ou leurs engagements régionaux, qu'ils soient militaires ou paramilitaires. Et là, il est beaucoup moins évident que Téhéran finisse par accepter de s'asseoir à une nouvelle table de négociation, surtout d'ici le 12 mai.
Éric Biegala, merci pour toutes ces explications. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May opposés aux États-Unis dans un autre dossier. Ils le disent dans une lettre commune contre les taxes américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Les exemptions de taxes pour l'Union européenne expirent demain. Bruxelles, déjà prête à réagir, Lex Milota.
Les Européens ont répété que sans exemption, des mesures de représailles viseront des produits emblématiques américains. L'UE est prête à réagir avec efficacité et célérité, peut-on lire dans un communiqué publié par l'Élysée. Le président français et la chancelière allemande se sont succédés à Washington la semaine dernière pour tenter de convaincre Donald Trump de préserver l'union de sanctions commerciales. Mais le principal conseiller économique du président américain a rappelé à l'UE qu'elle devait faire des concessions si elle voulait échapper aux droits de douane. Plusieurs pays, dont le Canada, le Mexique, la Corée du Sud et l'UE, ont bénéficié d'exemptions de la part de l'administration américaine en mars. Celles-ci arrivent à expiration ce mardi et pourraient ne pas être renouvelées. Avec cette lettre commune, l'Union européenne veut en tout cas se montrer unie, une unité décisive pour préserver nos intérêts, indique le communiqué.
Lakshmi Lota à Bruxelles pour France Culture. Deux attentats suicides ont fait au moins 4 morts ce matin à Kaboul. Une première attaque a été commise près du siège des services de renseignement afghans. Les victimes sont toutes des civils. Une deuxième explosion est ensuite survenue parmi les journalistes accourus sur place. Aucun bilan pour ce deuxième attentat suicide. Au Royaume-Uni, la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd, a donné hier sa démission. Après plusieurs semaines sous pression, la ministre a finalement été emportée par le scandale de la génération Windrush, du nom de ce bateau qui a transporté de la main-d'œuvre des Antilles britanniques jusqu'en Angleterre. Après la Seconde Guerre mondiale, 500 000 de personnes invitées à venir légalement au Royaume-Uni jusqu'en 1971, mais qui n'ont jamais été enregistrées correctement par les autorités. Considérées donc comme des clandestins, sans papier, la carte d'identité n'est pas obligatoire sur le sol britannique, ces personnes risquent aujourd'hui l'expulsion. Après des déclarations contradictoires, la ministre Amber Rudd a donc démissionné hier de son poste à l'intérieur. C'est le 4e départ du cabinet de Theresa May en 6 mois. Un coup dur pour la première ministre britannique qui doit encore négocier le Brexit. Ce scandale a également soulevé des questions sur la manière dont le ministère de l'Intérieur était géré, notamment sous la direction de Theresa May, entre 2010 et 2016, avant qu'elle ne prenne la tête du gouvernement. Leur route va s'arrêter à Londres. Plusieurs dizaines de militants d'associations de soutien aux migrants et des sympathisants entament ce matin une grande marche de la solidarité en soutien aux réfugiés. Un itinéraire symbolique pour suivre la route migratoire. Départ de Vintimille en Italie jusqu'à Londres donc. 59 étapes dont Nice, Lyon, Paris et Calais. Étapes au cours desquelles les participants vont rencontrer les associations locales et organiser des actions de sensibilisation du grand public au sort des migrants, accompagnés de personnalités parfois comme l'écrivain Yann Moix. Direction la péninsule coréenne à présent, où la détente se poursuit après le sommet historique entre les deux dirigeants nord-coréens et sud-coréens vendredi dernier. Ce matin, les médias officiels à Pyongyang annoncent que la Corée du Nord va changer de fuseau horaire dès samedi prochain pour s'aligner sur l'heure de Séoul. Par ailleurs, le bureau présidentiel sud-coréen annonce que le régime du Nord va démanteler son site d'expérimentation nucléaire souterraine dès le mois prochain. Mais en Corée du Sud, beaucoup appellent à la prudence face à tous ces développements. La correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les Corées remettent littéralement les pendules à l'heure. Le Nord avancera ses horloges de 30 minutes pour se caler sur l'heure de Séoul. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait déclaré lors du sommet vendredi se sentir triste de voir que les deux Corées avaient des heures différentes. Autre effet tangible de la détente, Nord et Sud ont éteint leurs haut-parleurs surpuissants installés le long de la frontière pour diffuser leur propagande de l'autre côté. Nous avons eu une nuit tranquille pour la première fois depuis longtemps, se félicite un résident dans la presse. Quant au président sud-coréen Moon Jae-in, il affiche une cote de popularité atmosphérique, près de 86% d'opinion favorable après le sommet. Mais malgré ces progrès, l'heure reste à la prudence. Les analystes rappellent que le Nord a accepté de démanteler un site d'essai nucléaire dont il n'a plus besoin et que sa sincérité n'est pas encore prouvée. Nous ne devons pas prendre l'offensive de charme de Kim Jong-un pour une transformation, avertit ce matin le quotidien Chungang, qui ajoute « Nos cœurs sont chauds, mais nos têtes doivent rester froides ».
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture.
7h08 sur France Culture, la suite du journal avec vous Catherine Dutu. Et le Conseil d'État qui juge sévèrement les transformations de l'assurance chômage présentées vendredi dernier en Conseil des ministres.
Le projet de loi de Muriel Pénicaud pour la liberté de choisir son avenir professionnel, attendu le 29 mai devant le Parlement, doit être amendé sur de nombreux points selon le Conseil d'État. La haute juridiction remet en cause le principe de l'offre raisonnable d'emploi inscrit dans le texte gouvernemental. Selon le Conseil d'État, donc, la réforme du gouvernement ne doit pas compromettre l'égalité de droit entre les chômeurs. Les précisions de Laurent Kramer.
Ce rappel à l'ordre du Conseil d'État est un camouflet pour le gouvernement, estime Denis Gravouille à la CGT.
Dans la définition que prévoyait le gouvernement, c'était on va adapter la définition de l'offre raisonnable d'emploi selon les agences et selon les 385 bassins d'emploi. En clair, si vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de boulot, vous savez, il n'y a pas de CDI, donc l'offre raisonnable d'emploi chez vous, c'est un CDD de 6 mois, d'un an. Et le Conseil d'État dit qu'il n'est pas possible de pouvoir faire accepter à certaines personnes, dans certains cas, un emploi précaire dont ils ne voudraient pas.
Avertissement formulé par l'ensemble des syndicats tout au long de la concertation et que le ministère n'a jamais voulu envisager, rappelle de son côté Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général de FO.
Il y a un risque d'arbitraire. Il y a un risque d'une part que cette définition ne soit pas la même d'un conseiller à l'autre. Et donc, ce que dit le Conseil d'État, c'est finalement, on ne peut pas individualiser la définition d'un retour à l'emploi et on ne peut pas créer de rupture avec les principes d'égalité de traitement sur quelque chose d'aussi fondamental que l'indemnisation chômage.
En précisant enfin qu'un chômeur ne pourrait être contraint d'accepter un travail éloigné de ses compétences ou de ses qualifications, le Conseil d'État édulcore encore plus le principe de l'offre raisonnable d'emploi, se félicitent les syndicats.
La SNCF prévoit un retour progressif à la normale du trafic aujourd'hui après le 6e épisode de grève en pointillé qui a causé des perturbations ce week-end pour les retours de vacances de la zone C. Hier, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, que l'on entendait à l'instant, Pascal Pavageau a demandé au gouvernement un moratoire sur la réforme du ferroviaire pour permettre de reprendre sereinement les discussions sur l'ouverture du rail à la concurrence, par exemple, la reprise de la dette de la SNCF par l'État ou encore la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. C'est à minuit ce soir que prennent fin les états généraux de la bioéthique. Depuis la mi-janvier, 280 débats et ateliers ont été organisés dans toute la France avec un éventail très large d'opinions autour de sujets sensibles comme la PMA, Tara Schlegel.
Les internautes ont pu contribuer à 9 thématiques. On trouve par exemple plus de 24 000 idées autour de la procréation médicalement assistée, la polémique PMA. Ça, c'était pour le pilier web des états généraux qui sera donc terminé ce soir à minuit. Parallèlement, les débats en région s'achèvent aussi. Ceux encore programmés ne vont plus entrer dans le champ de la réflexion. Les espaces éthiques régionaux doivent plancher sur les comptes rendus des quelques 270 débats organisés depuis le 18 janvier. Alors, on a beaucoup dit que les tenants de la manif pour tous et autres mouvements conservateurs s'étaient montrés bruyants, avaient perturbé quelques échanges. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, minimise. 10% environ des débats auraient été un peu compliqués, dit-il. Et dans l'ensemble, les citoyens ont surtout été intéressés et constructifs. Le rapport, qui sera endossé par les 40 membres du CCNE, s'appuiera donc sur le web, sur ces débats, mais aussi sur les auditions qui, elles, se poursuivent un peu, et sur le travail du Comité citoyen, un panel représentatif de la société française qui a choisi d'approfondir 2 thèmes, l'utilisation des tests génétiques auprès de la population et la question de la fin de vie. Pour ce comité citoyen, il y a encore un vrai week-end de travail le 19 mai. L'ensemble de ces réflexions sera synthétisé par le CCNE et un rapport rendu le 4 juin servira à nourrir la future loi voulue par le gouvernement.
Le comité consultatif national d'éthique présidé par le professeur Jean-François Delfrécy qui va donc s'atteler dès maintenant à décortiquer tous les points de vue qui se sont exprimés via Internet ou pendant les débats publics physiques.